Bonjour tout le monde et bienvenue. Content d'être avec vous ce matin et j'ai hâte de faire la rencontre de plusieurs visiteurs qui sont là, mais aussi de revoir les frères et sœurs réguliers. Un pasteur prêchait à son église et il avait l'habitude de ne pas trop s'avancer dans ce qu'il disait. Il disait des choses comme « on ne sait pas si » ou « je ne suis pas sûr, mais » ou « les interprétations divergent sur ce point » ou encore « je ne saurais pas dire ». Et finalement, une dame âgée de l'église est venue le trouver après un culte et lui a dit « pasteur, ne nous dis pas ce que tu ne sais pas, dis-nous ce que tu sais ». Et c'est important pour nous parce que nous sommes en train de considérer quelque chose, un domaine qui est important, le retour de Jésus-Christ. Et c'est un domaine dans lequel on ne sait pas tout, bien entendu. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, il y a des choses que je ne sais pas, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais il y a aussi des choses qu'on sait et qu'on doit être affirmatif sur le retour de Jésus. Il a dit qu'il va revenir, nous le verrons, ça c'est clair. Et d'autres choses aussi, au fur et à mesure qu'on avance pendant ces semaines, vont devenir claires. On ne doit pas douter des choses qui sont claires. Là, on doit avoir de la réserve, c'est peut-être sur d'autres détails sur lesquels, effectivement, il y a des divergences. La semaine passée, nous avons commencé notre série sur le retour de Jésus et nous avons vu qu'il s'agit du royaume de Christ qui a commencé déjà dans le ciel. Il est monté au ciel en tant que roi et il règne dans le ciel. Mais sa puissance est descendu vers la terre par le Saint-Esprit pour nous équiper, pour annoncer le roi, pour que des personnes de toutes les nations puissent reconnaître Jésus comme leur roi, le roi souverain, le Messie choisi par Dieu. On avait aussi vu que le retour de Jésus sera visible. Les anges avaient dit, vous l'avez vu aller au ciel et il reviendra de la même manière. Apocalypse chapitre 1 dit, tout œil le verra. Tout œil le verra. Et on avait posé la question, avez-vous hâte de le voir ? Jésus reviendra ? Est-ce qu'on a hâte de cela ? Ou est-ce que finalement nos autres projets terrestres pour cette année, pour les choses qu'on voudrait faire, prennent un peu le dessus sur ce retour glorieux ? Nous continuons aujourd'hui notre voyage de découverte de l'avenir en lisant une autre partie de la Bible qui annonce que le jour de son retour viendra comme un voleur. C'est le titre de ce message, comme un voleur. Cette semaine, donc, j'ai passé du temps à réfléchir à ce que font les voleurs. Pas parce que j'ai été cambriolé, mais j'étais en train de me dire, voilà, c'est quoi un voleur ? Que fait un voleur ? Un voleur, c'est quelqu'un qui prend des choses, n'est-ce pas ? C'est la base, si je peux dire, du voleur. Il prend des choses. Souvent aussi, il agit la nuit, il ne veut pas être vu. Le voleur, quand il fait son œuvre. Et il vient quand on ne s'y attend pas. Ne crois pas que le voleur va venir ce soir-là. C'est une surprise. Alors, pour comprendre ce que c'est le voleur ou le retour de Jésus comme un voleur, il faut écouter attentivement le texte biblique. On va regarder 1 Thessaloniciens. Et en particulier, il faut être prêt à se remettre en question par rapport à certaines idées que nous avons eues qui n'était pas forcément biblique. Si la Bible dit autre chose que ce que j'ai l'habitude de penser, eh bien que Dieu me fasse grâce pour que je sois prêt à changer d'avis et qu'il nous fasse aussi grâce pour que nous puissions être prêts à être encore plus bibliques dans nos convictions. Pas moins bibliques, mais plus bibliques dans notre attente de ce grand événement. Alors juste avant de lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, je voudrais préciser deux choses par rapport au vocabulaire qui est utilisé. D'abord, le mot « dormir » est utilisé par l'auteur, mais vous n'allez pas nécessairement l'entendre, parce que dans certaines traductions, comme celle que je vais utiliser, il traduit le mot « dormir » par « mort ». Sauf, je pense, à la traduction Darby, et peut-être l'une ou l'autre autre traduction. Mais le mot « dormir » est utilisé par l'apôtre Paul, qui écrit ces lignes. Et ce mot « dormir » exprime que quelqu'un est physiquement mort, mais que son âme continue à vivre. Donc son état n'est pas réellement mort. À la clinique, on peut dire oui, il est mort, Mais nous savons qu'il ressuscitera. Il se réveillera. Et donc, le mot endormi ou dormir peut servir. Et puis, l'autre expression, c'est mort en Christ. Mort en Christ signifie ceux qui décèdent, sont décédés, mais ils avaient la foi en Christ. Donc, c'est un chrétien décédé, peut être décrit comme mort en Christ. Nous ne sommes pas morts en Christ, nous sommes vivants en Christ, mais ceux qui sont décédés, qui avaient cru jusqu'au moment de leur mort, eh bien, eux sont dans ce terme mort en Christ. Et les Thessaloniciens avaient un peu peur. Ils avaient peur que ces gens qui étaient morts en Christ, qui avaient eu la foi, comme eux, étaient morts, ils allaient ne jamais voir Dieu. Ils avaient peur qu'ils disparaîtraient et qu'ils ne verraient pas ce grand jour du retour de Jésus qui était annoncé et qu'ils attendaient. Et ils pensaient que ça allait arriver à tout moment. Alors lisez avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 4, on commence au verset 15. 1 Thessaloniciens 4, 15. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Impossible de rater cette note encourageante, n'est-ce pas, dans cette lecture. Il le dit à deux fois, encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Encourager, ça veut dire consoler. Quelle consolation de savoir que même ceux qui sont morts, sont auprès du Seigneur et nous allons les revoir. Ils ne vont pas rater le retour du Seigneur. Mais aussi, il y a l'élément d'exhortation. Encourager veut aussi nous dire exhorter les uns les autres. Exhorter à la confiance. Exhorter à la préparation. Soyez prêts, on devrait être en train de nous dire, pour le retour du Seigneur. Alors nous allons voir trois choses à travers cette lecture. On a l'habitude de voir trois choses avec moi quand je prêche, mais c'est un peu inévitable, on va voir trois choses ce matin. D'abord, le retour sera immanquable. Le retour sera immanquable. Qu'est-ce qu'il dit ? Le Seigneur lui-même, Jésus, descendra du ciel, dit le verset 16. C'est ce que nous avons entendu la semaine passée, n'est-ce pas ? Jésus reviendra. Mais ici, la Bible va dire encore plus que cela. L'auteur nous informe sur ce qui va se passer avec le retour. Et la première chose qu'il veut qu'on saisisse, c'est que ce sera immanquable, impossible de le manquer. D'ailleurs, avec le mot grec qui est utilisé au verset 15, le mot « retour », c'est peut-être un mot que vous avez entendu, c'est « parousie »,« parousia » en grec. « Parousie », c'est un mot qui était utilisé à l'époque pour la venue de grands chefs d'État, des grands rois ou des empereurs, lorsqu'ils venaient quelque part, on disait, hein, c'est sa venue. Quand un président américain ou chinois arrive à Bruxelles, est-ce qu'on le remarque ? On le sait, n'est-ce pas ? Les quartiers sont bouclés, on ne peut pas se garer dans certaines rues, il y a des consignes de sécurité, les sirènes de police retentissent. Il y a tout un entourage qui accompagne ce président. Une telle visite importante est connue partout. Et c'est intéressant donc, que ce mot-là qui était utilisé couramment pour les grandes visites de rois ou de personnes importantes est utilisé pour parler de notre roi et de sa venue. Alors lorsque c'est décrit, il met en avant deux groupes. Il dit d'abord « nous, les vivants ». Alors c'est peut-être pas nous, ça peut être nos enfants, nos petits-enfants. Ce ne sont pas les personnes du 1er siècle qui lisaient ces paroles parce que ces personnes-là sont maintenant décédées. Mais ceux qui sont vivants et croyants au moment où Jésus revient. Et puis ceux qui sont morts, c'est-à-dire ceux qui dorment, les morts en Christ. Bien sûr, il pouvait évoquer d'autres gens, ceux qui ne croient pas en Christ. Mais ici, au chapitre 4, il ne parle pas d'eux, il parle juste de ces deux groupes, ceux qui sont chrétiens vivants, ceux qui sont chrétiens morts. Qu'est-ce qui se passe avec ces deux groupes? Eh bien, il dit au verset 15, les vivants ne vont pas devancer ceux qui sont morts. Le verset 16 annonce que les morts en Christ ressusciteront d'abord. Alors cela nous concerne, n'est-ce pas? Parce que nous connaissons tous des chrétiens, des amis, membres de nos familles, membres d'églises, qui sont morts. Et peut-être qu'on s'est déjà posé la question, mais où sont-ils? Leur corps est placé au tombeau. J'ai été plusieurs fois à un enterrement de frères ou sœurs de l'Église et j'étais là au tombeau. Le corps est placé dans le tombeau. Mais l'âme de cette personne est vivante. Aujourd'hui, avant le retour de Jésus, l'âme de chaque personne, chaque chrétien décédé est auprès du Seigneur, en sa présence. Et cette âme est éveillée, elle est vivante, elle est joyeuse, elle est consciente. Et je n'ai pas le temps pour prouver tout cela à travers des textes de la Bible ce matin, mais si vous voulez regarder, Apocalypse 6 décrit de telles personnes, Philippiens 1 parle de vouloir être auprès du Seigneur, loin de son corps, et 2 Corinthiens 5, Paul parle de quitter son corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est la réalité de ceux qui meurent en Christ. Leur corps n'y est pas. Ils ont une existence spirituelle, parce que Dieu est esprit, ils sont dans la présence de Dieu, mais Jésus est le seul qui a déjà son corps nouveau. Aujourd'hui, en 2024, il l'a depuis évidemment le 1er siècle. C'est au retour de Jésus qu'aura lieu la résurrection corporelle, donc, des croyants. Même s'il ne reste plus rien de leur corps. Peut-être qu'ils sont décédés il y a 500 ans ou 600 ans. Il ne reste plus rien dans la terre de leur corps. Mais Dieu, qui est le Créateur, a le pouvoir de créer un nouveau corps. Et il va créer ce nouveau corps qui sera glorieux, qui ne peut jamais mourir, qui sera incorruptible, dans lequel l'âme peut vivre. Et donc, quand Jésus vient, il vient avec les chrétiens saints du passé, avec leur âme. Si vous voulez juste regarder au chapitre 3, verset 13, chapitre 3, verset 13, dans la même lettre, il est dit ceci. Que le Seigneur affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Jésus viendra, il viendra avec les chrétiens qui sont morts. Alors ce retour sera immanquable parce que c'est accompagné par un grand bruit. Vous avez vu cela? Il dit au verset 16... Un signal donné, c'est un cri. À mon avis, ce sera quelque chose comme « Levez-vous !» Et il y a la voix d'un archange, quelque chose de très fort lorsqu'un ange parle, n'est-ce pas? Dans l'Apocalypse, on entend cela. Et au son de la trompette, vous avez entendu une trompette? Ça dérange, n'est-ce pas? Quand vous avez un voisin qui joue à la trompette, vous l'entendez. Donc ces trois bruits fracassants, un signal fort, une voix d'un archange et une trompette, peut-être le même bruit décrit de trois manières, mais c'est un bruit très fort. Et à ce moment-là, on va se réveiller. Alors, où est-ce que j'en suis dans mes notes? Ce sera le grand bruit. Voilà, la résurrection qui aura lieu sera aussi extraordinaire à voir. On sera là et on va voir des millions de gens ressuscités. Parce que c'est une résurrection physique, là. Ce n'est pas une résurrection spirituelle. C'est une résurrection physique. Et ensuite, verset 17, ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est le moment où nous aussi, si nous sommes vivants, peut-être qu'on ne sera pas vivants à ce moment-là, mais si nous sommes vivants au moment du retour de Jésus, nous recevrons notre corps nouveau, notre corps ressuscité. Alors il y a un texte qui est en arrière-plan, je pense, pour nous aider à comprendre cela. C'est très important qu'on le lise. Et donc je vous invite à regarder 1 Corinthiens 15, il sera affiché. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Quand je fais cela, je ne veux pas prendre des versets hors contexte, hein, mais je veux juste peut-être cibler certains versets qui peuvent vraiment nous aider à comprendre ce qui est expliqué en 1 Thessaloniciens. 1 Corinthiens 15, 51 dit ceci. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons transformés. » Vous voyez comment ça se passe? Les morts en Christ, ils vont ressusciter, ils auront leur nouveau corps, sortir des tombeaux. Nous, si nous sommes vivants, nous aurons aussi notre nouveau corps. Ça va se passer tout de suite, mais ce sera par une transformation. On ne va pas mourir, on va juste être transformé dans notre nouveau corps glorieux. Et nous devons saisir cela et le prendre au sérieux. Mais le mot qui a fait couler beaucoup d'encre, on revient à 1 Thessaloniciens, le mot qui a fait couler beaucoup d'encre est le mot « enlevé » au verset 17. Et c'est nécessaire de parler un peu de cela. Tim LaHaye était un pasteur évangélique américain. Il s'est endormi en 2016. Un conservateur sur le plan théologique, c'était quelqu'un qui a écrit de nombreux livres, y compris un livre sur la sexualité qui est recommandé aux couples chrétiens. Mais dans les années 90, ce même pasteur écrivain a commencé à écrire des romans. Des romans qui ont rendu populaire une certaine idée de l'enlèvement. Cette série de livres s'appelle « Left Behind » ou « Laisser en arrière ». Et ils ont fait 4 films basés sur ces livres qui l'ont encore répandu dans la pensée de plusieurs. Alors le concept est celui-ci, dans les livres et dans le film, les chrétiens disparaissent tous subitement, au même moment de la terre, mais ils laissent derrière eux un monde perplexe, parce que les autres sont en train de se dire « Ah, où sont nos voisins? Où sont les gens qui allaient à l'église là, le dimanche? Ils sont où? Nos collègues, les personnes qui travaillent près de chez nous, où sont-ils ?» Et voilà. Est-ce que ça va se passer comme ça? Alors nous devons approcher cette question avec prudence. Parce que je sais qu'il y a des raisons bibliques pourquoi des chrétiens croient cela. Et puis aussi, finalement, c'est Dieu qui décide, n'est-ce pas, comment les choses vont se passer. Et il ne fera pas ce qui nous semble raisonnable. On aurait tort de juger simplement par ce qui nous semble raisonnable, de dire « ah, ça va se passer » ou pas. Dieu agira selon sa grande sagesse dans les détails et dans le déroulement de ce qui vient. On accepte cela. Donc la question n'est pas « est-ce que ça vous semble raisonnable ? Est-ce que ça vous semble réaliste ? Mais est-ce bien ce que la Bible enseigne, que les chrétiens vont disparaître ?» au retour de Jésus, ils ne vont pas être vus, et Jésus non plus, et les autres vont juste se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais évoquer 4 choses. D'abord, le retour de Jésus est accompagné par un grand bruit. Deuxièmement, le retour de Jésus est accompagné par la résurrection physique des croyants. Troisièmement, il est question d'être avec eux, avec lui, sur les nuées, et les nuées sont souvent associé avec la présence visible de Dieu. Vous vous souvenez quand, dans l'Ancien Testament, Dieu était présent, on avait une nuée qui était visible pour savoir, voilà la gloire de Dieu, voilà la présence de Dieu. Et puis quatrièmement, le mot « enlevé » ne signifie pas « disparu ». On peut dire aujourd'hui, il y a eu un enlèvement, un enfant a été enlevé. Ça ne signifie pas disparu, mais subitement pris, emporté, saisi vers le haut, élevé, on pourrait dire. Alors pour ces quatre raisons, ce que la Bible annonce ici me paraît être un moment qui est visible pour tous, même les non-chrétiens, où les chrétiens qui vont être subitement transformés et emportés en un clin d'œil montent vers le ciel à la vue de tout le monde pour être aux côtés de Jésus, parce que Jésus sera revenu, il sera dans le ciel. Alors ce retour sera immanquable. Quelqu'un va dire, alors dans quel sens est-ce que c'est comme un voleur? Eh bien, en fait, dans ces premiers versets que nous venons de lire au chapitre 4, il n'est pas question du voleur. C'est la suite qui utilise cette image du voleur. Et c'est la deuxième chose que nous allons voir ce matin, c'est que le retour sera imprévu. Il sera immanquable, mais il sera aussi imprévu. Là, je me base sur les premiers versets du chapitre 5. J'ai parlé la semaine passée de deux personnes qui disaient qu'elles avaient hâte de voir le Seigneur Jésus cette année, mais elles ne disaient pas qu'il allait venir cette année. C'est important de le préciser. Elles avaient juste exprimé leur désir de voir Jésus, ce serait formidable. Elles étaient enthousiastes, mais à vrai dire, nous ne savons pas quand Jésus va revenir. Ça pourrait être en 2024, ça pourrait être en 2124, ou ça pourrait être dans 500 ans, on ne sait pas. Paul refuse même d'entrer dans le sujet, vous avez remarqué ça au verset 1. Alors le parallèle avec le voleur, et il dit au verset 2, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, le parallèle avec le voleur n'est pas total. Il y a des choses qu'on peut dire par rapport au voleur, par exemple, ils prennent des choses qui ne leur appartiennent pas, qu'on ne peut pas dire par rapport à Jésus. Les gens détestent le voleur, mais on aime Jésus. Donc, tout ce qu'on peut dire sur un voleur n'est pas forcément vrai du Seigneur Jésus. D'ailleurs, ce n'est pas Jésus qui est décrit comme un voleur ici. C'est le jour du Seigneur qui est décrit comme venant comme un voleur. Et donc, la clé ici est la surprise. Il l'exprime ainsi. La ruine viendra, qui sera le contraire de ce qu'ils imaginent. Ils pensent qu'ils sont en paix, mais ils trouvent la ruine. C'est une surprise. Les douleurs de la femme enceinte, c'est-à-dire les contractions qui viennent sur une femme enceinte, vous savez cela, mesdames, si vous avez eu l'expérience, c'est imprévisible. On ne peut pas dire, voilà, vendredi, je vais accoucher. C'est pas. Ça vient subitement. C'est une surprise. Et puis, verset 4, il dit même, c'est une surprise. Il parle de surprise. Comme un voleur. Donc le retour de Jésus sera comme un voleur parce que ce sera une surprise. Ce sera imprévu. On ne peut pas savoir les temps, le temps qu'il y a entre maintenant et le retour de Jésus. On ne sait pas savoir les moments, c'est-à-dire quelle année, quelle saison, quel jour, quelle heure de la journée il va revenir. Tout ça nous est caché. Et vous savez quoi ? Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose. Parce que si le monde savait quand était la fin du monde, on verrait un relâchement total des mœurs. Et pour les chrétiens aussi. Honnêtement, si on savait que c'était dans 30 ans que Jésus revient, peut-être pendant 25 ans, on va rien faire. On va dire, on a le temps. Et le fait qu'on ne sait pas veut dire justement qu'on doit être vigilant, prudent par rapport au retour de Jésus. Le retour sera donc imprévu. Les gens diront « paix et sécurité ». Je pense que souvent nous interprétons cela en termes de géopolitique. Mais ça peut être aussi personnel. « Ah, je suis en paix. Je suis en sécurité. Ma vie va bien. » Et puis soudain, cette fausse sécurité est dévoilée par le danger. Vous avez vu verset 3, « une ruine soudaine et ils n'y échapperont pas ». J'ai évoqué la semaine passée le retour de Jésus comme quelque chose qui devrait nous rendre heureux. Oui, c'est quelque chose de formidable, le retour de Jésus. Mais ce ne sera pas un jour heureux pour tout le monde. D'ailleurs, l'expression « le jour du Seigneur » qui est utilisée ici, est utilisée dans l'Ancien Testament toujours en lien avec le jugement de Dieu contre ses ennemis. Regardez avec moi, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais écoutez en tout cas, Sophonie, Ouais, c'est pas facile à trouver, Sophonie. C'est un prophète de l'Ancien Testament, à la fin de l'Ancien Testament. Et je vais juste lire Sophonie, chapitre 1, verset 14. Sophonie 1, 14. On va revenir à un Thessalonicien. Mais c'est un des prophètes qui parle du grand jour du Seigneur. D'accord ? Le jour du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit ? Sophonie 1, 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages, de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortifiées et les hautes tours. Et puis au verset 18, « Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer le jour de la fureur de l'Éternel. Toute la terre sera dévorée par le feu de sa jalousie, car il détruira, et ce sera terrifiant, tous les habitants de la terre. » On entend les parallèles, n'est-ce pas, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont souvent parallèles dans ce qu'ils annoncent. Il y a les ténèbres, la trompette, la ruine, la destruction. Le retour de Jésus. Le jour du Seigneur sera imprévu. Et ça nous interpelle. De quel côté sommes-nous ? Aujourd'hui, on dit, bah, c'est pas grave, tu peux croire ce que tu veux. Certains sont comme ça, d'autres sont comme ça. Toi, tu es croyant, moi, je ne suis pas croyant. Et en fait, tout le monde se mélange dans la société. Mais ce jour-là, ce sera très clair qui est dans le camp de Jésus et qui est ennemi de Jésus. Alors, il y a des signes précurseurs, des choses qui doivent arriver avant. On en parlera lors d'un message suivant. Mais la dernière partie de notre texte nous encourage. Si nous sommes chrétiens, nous devons saisir cette troisième partie comme un encouragement pour nous, que nous pouvons nous préparer pour le retour du Seigneur. Il sera immanquable, mais nous pouvons nous y préparer. Verset 4. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors cela semble être en contradiction avec le point précédent. Il a dit que ce sera imprévu, et puis là, il dit non, ça ne va pas être une surprise pour vous. Mais ce n'est pas une contradiction. Même si nous ne connaissons pas la date exacte quand Jésus reviendra, nous pouvons être prêts intérieurement. Et être prêt, c'est tout simple. C'est vivre en tant que chrétien, tout simplement. Des enfants de lumière, des enfants du jour. Et nous dit, ben, nous, soyons sobres. Soyons sobres. Ça veut dire ne pas être engourdi par la paresse. Quand Paul écrit à ses Thessaloniciens, ces chrétiens du premier siècle, il leur réécrit une deuxième lettre après de Thessaloniciens, et où il leur dit, mais arrêtez d'être paresseux. Il y a des gens qui fichaient rien à l'église. Et qui disaient, bon, là, on attend, Jésus va revenir, hein, donc voilà. Et il leur dit, mais allez, faites quelque chose, travaillez. Travaillez de vos mains. Parce qu'on ne sait pas quand Jésus va revenir. Donc on ne doit pas être dans la paresse de ceux qui disent, bon, voilà, on ne fera rien, puis Jésus viendra nous chercher. On ne doit pas, quand on dit « soyez sobre », on ne doit pas être insensibilisé par l'alcool. Il est clair qu'il parle de s'enivrer, et être enivré, ça peut être métaphorique, mais ça peut être aussi littéral. Je pense à une dame qui était une femme fidèle de notre église, très gentille. À la fin de sa vie, elle buvait de plus en plus, elle ne venait plus à l'église. Et quand on allait la voir, c'est triste de voir qu'elle était vraiment sous l'emprise de l'alcool. Jour après jour, elle buvait. Sa vitalité spirituelle était ternie, cachée. Est-ce qu'elle était encore présente ? Je ne sais pas. Mais elle était insensibilisée par l'alcool. Elle n'était pas prête pour le retour de Jésus, dans ce sens. Et on peut aussi manquer de sobriété en étant emporté par les passions distrayantes. Il y a tant de choses qui nous distraient, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, qui réclame notre attention. N'est-ce pas une lutte individuelle, vous le direz si c'est le cas pour vous, mais pour trouver un moment chaque jour pour lire la parole, pour nous concentrer sur le Seigneur, est-ce que ce n'est pas difficile ? On doit dire non à toutes sortes de distractions, juste pour avoir ce temps avec lui. Et quand nous prenons le temps, chez nous, de lire la Bible, est-ce que nous ne trouvons pas qu'on voit les autres choses différemment ? on voit que tant d'autres choses n'ont pas vraiment d'importance, ne sont pas aussi urgentes ou importantes ou grandes qu'on le pense. On voit vraiment ce qui a de l'importance. C'est important de rester sobre. Et pour rester sobre, on a besoin de régulièrement écouter à nouveau la parole et de nous rediriger vers le Seigneur, celui qui vient. Il parle aussi, verset 8, d'enfiler l'armure de la foi, de l'amour, de l'espérance. À nouveau, ce sont des choses de la vie chrétienne ordinaire. La foi en Dieu, la confiance en Dieu, on doit rester ferme dans notre confiance. On doit nous exhorter les uns les autres, soyons fidèles. Mais il y a aussi l'amour pour Dieu, et puis l'amour les uns pour les autres. Il en parle au chapitre 4 dans cette lettre. C'est très important, la communion fraternelle, l'amour pour les autres chrétiens. Et puis l'espérance. L'espérance en Dieu. En disant, oui, je sais que Jésus viendra, et je sais que quand il viendra, eh bien, je serai sauvé. Cela nous protège, cette espérance du salut. Alors on arrive au verset 9. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ces versets ne sont pas écrits pour faire peur aux chrétiens. Au contraire, ils devraient nous sensibiliser à la gravité du péché, oui. Nous pourrions certainement être tristes de voir le monde qui n'est pas prêt pour le retour de notre Seigneur. C'est vrai aussi. Mais nous, ne devons pas avoir peur pour nous. Plutôt avoir de l'espérance. Notre salut vient, et notre salut est proche. Et la colère de Dieu, qui est réelle, qui va être déversée dans le monde et qui sera ressentie en enfer, son opposition constante au péché, nous n'allons pas le ressentir. Si notre foi est en Christ, c'est parce que nous croyons que Dieu a déversé sa colère sur Christ à la croix. Et qu'il n'y a aucune expérience de la colère de Dieu pour nous qui croyons. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il ne nous a pas destinés à la colère, mais à posséder le salut. Nous n'allons pas être condamnés, nous allons être sauvés quand Jésus reviendra. Alors que le Seigneur nous encourage par cette vérité, dans notre vie, nous allons perdre beaucoup, nous allons souffrir beaucoup, parfois des souffrances intenses, de la persécution, c'est bien possible, mais la fin sera heureuse. Jésus est mort pour nous, verset 10, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Soit que nous veillions, si nous sommes encore en vie au moment où Jésus revient, ou soit que nous dormions, si nous mourons avant que Jésus revienne. La fin, c'est la même, le résultat est le même. C'est on vit avec lui, on vivra avec lui. Et ce verset nous révèle aussi une vérité profonde. Verset 10 encore. Vous savez, nous pensons souvent à ce que Dieu nous a apporté et on pense aux moyens du salut. La croix de Jésus. Le fait d'être pardonné. Le fait d'être justifié. Mais ça, ce sont les moyens du salut. Quel est le but ? Pourquoi est-ce que Dieu nous a justifiés ? Pourquoi est-ce qu'il nous a pardonné nos péchés ? Et ce verset nous le montre, c'est pour que nous vivions ensemble avec lui. Il ne nous a pas justifiés juste pour montrer qu'il pouvait justifier des gens. Il ne nous a pas pardonnés juste pour montrer sa miséricorde. Il nous a pardonnés pour que nous puissions être avec lui. Dieu nous veut. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu nous veut ? Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous veut. Moi, je ne sais pas non plus, mais il nous veut. Et il a montré qu'il est prêt à tout faire pour que nous puissions être avec lui. Pas seulement maintenant, pendant quelques années en Belgique, mais pour l'éternité dans sa présence glorieuse. On est lavé, propre, purifié, irréprochable dans la sainteté pour que nous soyons acceptables pour lui. Nous avons vu aujourd'hui que le retour de Jésus sera immanquable. On ne peut pas le louper. Ce sera un événement mondial. Avec la résurrection instantanée des chrétiens déjà morts, et puis pour nous aussi, notre corps va changer. Ce sera aussi imprévu. On ne peut pas dire quelle date, quand ça va être, quelle année. On ne sait pas. Même si on le désire, on ne peut pas dire que ça va être cette année. Ça pourrait nous sembler plus tôt que prévu. Quand Jésus revient, on pourrait dire « Ah, déjà !» Ça pourrait sembler plus tard que prévu. Je pense que les chrétiens du siècle dernier pensaient que Jésus allait revenir en 1940, en disant « on voit ce qui se passe dans le monde, Jésus revient ». Il n'est pas revenu. Donc peut-être que ça nous semblera plus tard, mais ce sera un moment inattendu. Ce que nous savons, c'est que nous devons être prêts, et nous pouvons être prêts. Si nous continuons à vivre dans l'espérance, dans la foi, étant motivés par le Seigneur, alors prenons un temps de réflexion, juste maintenant, à la fin de ce message. Je vais accorder un moment de silence pour que nous puissions réfléchir à nous-mêmes, à deux choses. D'abord, est-ce qu'il y a des habitudes dans notre vie que nous devons changer en vue d'être prêts pour le retour? Est-ce qu'il y a dans le rythme de ma journée ou dans le rythme de ma semaine, des choses qui devraient changer pour que je réfléchisse plus à ce qui a vraiment de l'importance? Je vous laisserai réfléchir pour vous-même par rapport à ça et à prier peut-être que le Seigneur vous aide à prendre de bonnes habitudes. Et l'autre question que je vous laisse, c'est quels encouragements réciproques pouvons-nous donner? Comment puis-je aider un chrétien, une chrétienne de mon Église à être prêt, à ne pas se décourager, à être consolé, mais aussi à être encouragé pour le retour du Seigneur? Je vous laisse un moment de silence pour réfléchir à cela, et puis je vais prier. Père Céleste, nous voulons prendre ta parole à cœur. Elle nous annonce que Jésus est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est là notre espérance, c'est là notre joie, c'est là notre avenir si nous sommes à toi. Merci Seigneur. Mais nous avons parlé aussi de sobriété, de ne pas nous laisser endormir de manière spirituelle ou de nous enivrer, de ne pas être tellement distraits par les choses de ce monde que nous n'attendons plus, en fait, nous ne sommes plus vigilants par rapport au retour. Seigneur, pardonne-nous, aide-nous, donne-nous de prendre de bonnes décisions pour notre vie quotidienne, que nous puissions être plus attentifs, que nous puissions écouter ta voix régulièrement, que nous puissions revoir nos priorités aussi pour cette année qui commence, et que nous puissions être prêts, saint, irréprochable, lorsque Jésus apparaîtra.